Vous écoutez, on lit pour vous.
Contre le racisme, pour un avenir sans discrimination. Un texte de Zil Boulsara, paru le 24 mars 2025 dans La Liberté. La Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale est observée chaque année le 21 mars. Cette journée-là, en 1960, la police de Sharpeville, en Afrique du Sud, a tué 69 personnes lors d'une démonstration calme contre l'apartheid. Le 21 mars est un appel à l'action pour les personnes, les organisations et tous les gouvernements pour éliminer toute forme de discrimination raciale, d'injustice, de racisme systémique et de haine. La discrimination raciale, c'est quand des personnes traitent d'autres personnes différemment ou injustement à cause de leur race, origine, couleur de peau, langage ou religion. Elle peut prendre place n'importe où, école, travail, etc. La discrimination raciale peut aussi être systémique, c'est-à-dire qu'elle est intégrée aux structures et institutions de la société. Ce type de discrimination est un peu difficile à reconnaître, mais il peut avoir un impact significatif sur les communautés autochtones, les minorités et les groupes racialisés. Une auxiliaire du Collège Jeanne Sauvé, Rhonda Timmerman, qui n'avait pas entendu parler de cette journée avant, pense que c'est une bonne idée d'avoir une journée pour lutter contre le racisme et la discrimination. Cette journée met en lumière l'importance de l'égalité pour tout le monde et surtout de lutter contre la discrimination raciale. Dans un monde où la discrimination raciale est encore une réalité, la journée du 21 mars offre l'occasion de réfléchir aux moyens de construire un avenir où chaque individu est respecté, peu importe son origine. Agir et sensibiliser. En 2023, la ville de Winnipeg a organisé toute une semaine d'antiracisme qui s'est déroulée du lundi 20 mars au vendredi 24 mars. Ceux qui le voulaient ont pu mettre un panneau de pelouse avec un message pour dire leur désir de vivre dans une ville sans racisme et que le racisme n'était pas bienvenu ici. Mais parfois, juste parler de discrimination et de racisme n'a pas d'effet. Cela peut cependant changer quand on utilise les arts. C'est justement ce que la ville de Winnipeg a fait au printemps 2024. Elle a organisé un concours pour les élèves de la maternelle à la 12e année. Par des œuvres d'art, les élèves participants étaient invités à partager leurs connaissances et leurs sentiments sur la manière d'être inclusif et de créer des espaces accueillants pour leurs pairs. L'impact d'une telle journée. La Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale sert de rappel aux gens que la lutte contre le racisme et la nécessité de construire une société plus juste et plus égale ne sont pas finies. Le racisme est encore une réalité pour plusieurs personnes aujourd'hui, et il faut s'éduquer et travailler ensemble vers un avenir sans racisme ni discrimination ou xénophobie, où chacun est traité avec égalité et respect. Cette journée permet aussi aux gouvernements et aux organisations de mettre en œuvre des politiques qui favorisent l'inclusion, la diversité et la justice raciale. Par contre, Caroline Marchildon, enseignante du Collège Jeanne Sauvé, précise que cette journée n'a de l'importance que si la sensibilisation autour de ces enjeux est bien adressée. Ce qui signifie que, pour que cette journée ait un réel impact, il est essentiel d'organiser des initiatives éducatives et de favoriser les discussions ouvertes sur le racisme et la discrimination. Et pour les personnes discriminées, cette journée peut avoir un grand impact sur les personnes qui ont dû faire face à de la discrimination raciale, les victimes de racisme. Cela leur redonne du pouvoir, de la reconnaissance et de la solidarité. Cela les encourage également à partager leurs expériences et à faire appel à l'action pour que justice soit faite. Maintenant qu'on sait qu'une journée pour l'élimination de la discrimination raciale existe, ça veut dire aussi que les questions de racisme et discrimination sont discutées et que les autorités veulent éliminer le racisme. Ce n'est plus juste mis de côté, commente Rhonda Timmerman. Elle ajoute qu'il est non seulement essentiel de reconnaître cette journée, mais aussi d'agir tout au long de l'année pour lutter contre le racisme sous toutes ses formes par des mesures concrètes. C'était « Contre le racisme, pour un avenir sans discrimination », un texte de Zil Boulsara, paru le 24 mars 2025 dans La Liberté.
Une taxe pour les citoyens qui n'ont pas d'arbres sur leur terrain. Un texte d'Éric-Pierre Champagne, paru le 24 mars 2025 dans La Presse. La municipalité de Saint-Amable souffre d'un manque d'arbres et d'une montée des îlots de chaleur. Pour accélérer son verdissement, cet ancien village agricole mise sur une approche inédite. Une taxe annuelle de 200 $ pour les propriétaires qui n'ont pas d'arbres feuillus devant chez eux. Depuis 2 ans, l'Université Laval produit des cartes des îlots de chaleur et « On est les cancres de la rive sud », dit Jean-Sébastien Ménard, directeur général de cette municipalité de 14 000 habitants située en Montérégie. Saint-Amable s'est beaucoup urbanisé depuis plusieurs années et n'est plus seulement un village agricole où l'on cultivait, entre autres, ses asperges. Selon les données officielles, sa population est passée de 5 800 à 13 300 habitants en 30 ans, soit de 1991 à 2021. Comme dans bien d'autres villes où l'urbanisation a été très rapide, la plantation d'arbres n'a pas toujours été une priorité à Saint-Amable, résume Jean-Sébastien Ménard. Mais l'environnement est devenue une préoccupation qui est au cœur de notre plan stratégique et de nos actions. On se prépare d'ailleurs à déployer un plan directeur de verdissement. On va planter 13 000 arbres sur le domaine public. C'est majeur. Saint-Amable n'est plus le village qu'il était à l'époque. On a fait un grand virage. On est une ville jeune, la moyenne d'âge est de 37 ans. On a beaucoup de jeunes familles, ajoute M. Ménard. Plusieurs études l'ont confirmé. Les arbres sont l'un des moyens les plus efficaces pour lutter contre les îlots de chaleur. Ils peuvent réduire la température ambiante à l'extérieur et même diminuer les coûts de climatisation pendant l'été. Selon les modélisations du consortium de recherche Ouranos, les températures moyennes annuelles augmenteront de 3,1 degrés Celsius à 5,5 degrés Celsius à Saint-Amable d'ici la fin du siècle. La municipalité compte actuellement, en moyenne, 13 jours par année où la température dépasse les 30 degrés Celsius, et cette fréquence pourrait augmenter jusqu'à 59 jours d'ici 2100. Une taxe plutôt qu'une amende. Pour accélérer son virage vert, Saint-Amable a donc choisi une approche différente de celle qu'ont adoptée les municipalités avoisinantes. Des villes comme Saint-Bruno de Montarville, Sainte-Julie ou Boucherville ont depuis plusieurs années des règlements d'urbanisme qui obligent les propriétaires à avoir un certain nombre d'arbres sur leur propriété selon la taille de leur terrain. Un citoyen qui contrevient au règlement reçoit une amende pouvant aller jusqu'à 1 000 $ dans certains cas. Saint-Amable a décidé de miser plutôt sur l'écofiscalité, souligne Jean-Sébastien Ménard. Pour obtenir un virage rapide, on a jugé que l'autre approche était moins efficace. Il faut faire des inspections, remettre des constats d'infraction. Ce sont des dossiers qui peuvent se retrouver en cour municipale. En 2025, la municipalité a instauré une nouvelle taxe de 200 $ applicable aux propriétés qui n'auront pas, au minimum, un arbre feuillu sur leur terrain devant leur résidence. L'objectif n'est pas tant d'aller chercher des revenus que de faire changer les comportements, affirme Jean-Sébastien Ménard. Sur les 3 000 propriétés où la mesure est applicable, 1 200 n'étaient pas conformes. Environ 800 propriétaires ont planté un arbre en 2024 et 400 ont finalement reçu un avis les informant qu'ils devraient payer une taxe supplémentaire de 200 $. Les sommes recueillies sont acheminées dans un fonds destiné au verdissement de Saint-Amable, précise Jean-Sébastien Ménard. La ville rappelle qu'elle offre un programme de vente d'arbres à ses citoyens au coût de 30 $ l'arbre, qui est livré à domicile au printemps. Si quelqu'un ne veut pas planter d'arbres devant sa maison parce qu'il n'aime pas ramasser les feuilles, c'est correct. Mais chaque année, cette personne devra cotiser 200 $ pour permettre de verdir la ville de Saint-Amable, affirme M. Ménard. Selon lui, d'autres municipalités, dont Varennes, ont des projets d'éco-fiscalité similaires. Une mesure qui ne fait pas l'unanimité. La taxe de 200 $ imposée aux propriétaires qui n'ont pas au moins un arbre devant leur résidence ne fait pas l'unanimité, comme l'a récemment rapporté le Journal de Montréal. Plusieurs citoyens affirment avoir planté un arbre et avoir quand même vu apparaître une somme de 200 $ à payer sur leur compte de taxe municipale. Selon Jean-Sébastien Ménard, la municipalité a fait appel à la firme Jacarto, qui a réalisé une cartographie du territoire avec des technologies numériques. Sur les 400 cas qui n'étaient pas conformes à la nouvelle réglementation, environ 50 dossiers ont été corrigés après que des citoyens ont fourni la preuve qu'ils avaient bel et bien planté un arbre sur leur terrain. Dans leur cas, la taxe additionnelle a été annulée. C'était une taxe pour les citoyens qui n'ont pas d'arbres sur leur terrain, un texte d'Éric-Pierre Champagne paru le 24 mars 2025 dans La Presse.
Une révolution, loin des applications de rencontres, un texte de Florence Dancause paru le 30 mars 2025 dans La Presse. Les applications de rencontres peuvent être particulièrement frustrantes pour les célibataires. Sophie Jolivet l'a elle-même vécu et a décidé d'y remédier avec le projet Match-moi. À travers des soirées au concept bien pensé, elle espère faire une petite révolution. Les applications de rencontres, c'est beaucoup de pertes de temps. Et c'est fatigant émotionnellement, témoigne Sophie Jolivet. Tu vas à des dates et tu sais, après 5 secondes, que ça ne fonctionnera pas. Ce qu'il manque aux fameuses applications? Le non-verbal de la personne, dit-elle. La stratège en médias sociaux a donc d'abord eu l'idée de faire de courtes capsules vidéo, légères et drôles, pour présenter des célibataires. Son meilleur ami, Maxime Baudry, s'est joint à l'aventure qui a commencé à l'été 2023. Je me disais qu'au moins, tu peux voir comment la personne s'exprime et c'est quoi son énergie? Les personnes intéressées pouvaient ensuite remplir un formulaire. Au fur et à mesure que nos comptes ont commencé à grandir, il y a de plus en plus de gens qui nous ont écrit pour participer, raconte-t-elle. Je crois qu'ils voyaient ça comme une expérience qu'ils ne vivraient pas souvent. Cet adepte de « L'amour est dans le pré » n'avait cependant pas trouvé la formule magique pour former des couples. En bout de ligne, je pense que j'ai réussi à créer comme 2-3 dates. Des soirées pour se rencontrer en vrai. C'est ainsi qu'elle a imaginé un nouveau concept. Des célibataires et leurs amis, qui sont les bienvenus, se rassemblant le temps d'une soirée d'humour. Des bracelets sont distribués, vert pour les célibataires et prêts à être matchés, jaune pour ceux pour qui c'est compliqué et rouge pour ceux qui sont en couple. De nos jours, quand tu vas dans un bar et que tu vois quelqu'un de cute, tu ne vas pas lui parler, glisse Sophie Jolivet. On ne fait plus ça. Cette gêne est peut-être liée en partie au mouvement hashtag MeToo. On veut faire plus attention et ne pas avoir l'impression de déranger. Et aussi à l'inconfort plus grand à vivre du rejet depuis les applications de rencontres, croit-elle. Je voulais juste trouver un prétexte pour qu'on rassemble des célibataires dans une même pièce et qu'ils soient clairement identifiés pour qu'on sache à qui on peut aller parler. L'instigatrice de Match-moi a organisé pas moins d'une dizaine d'événements à Montréal et à Québec depuis cet été et a également diversifié son offre avec des soirées de quiz qui s'adressent pour leur part seulement aux célibataires, puisque ce sont les organisateurs qui s'occupent de former les équipes au hasard. Le concept, Sophie Jolivet le voulait « loin du speed dating », où tu peux être pogné dans des conversations. Les célibataires sont très autonomes, indique-t-elle. Je préfère que ce soit plus naturel, plus organique, que les gens aillent se parler entre eux, puis ça fonctionne très bien. Plus de 800 billets ont été vendus depuis le début du projet et la demande est même un peu trop importante pour les soirées pour les hétéros. Je n'arrive pas à fournir. Il faudrait que j'aie un ou deux événements par mois pour eux, s'exclame-t-elle. Mais preuve du succès de sa formule, c'est 50% des gens qui restent en contact avec une autre personne, explique Sophie Jolivet, qui envoie des sondages maison après des soirées. Elle évoque même l'idée de faire un suivi pour savoir si des couples se sont formés. Et si tu n'as pas matché durant l'événement? Tu auras au moins passé une soirée le fun, fait-elle savoir. Élargir le bassin de célibataires. Un des défis de l'organisation des événements pour célibataires est d'attirer les hommes, explique Sophie Jolivet. En général, c'est toujours sold out pour les femmes bien avant les gars, dit-elle. Le problème semble s'accentuer lors des événements qui s'adressent à une tranche d'âge au-dessus de 40 ans. L'entremetteuse aimerait justement élargir ces événements aux groupes d'âge plus avancés, je sais qu'il y a un besoin, dit-elle, et à la communauté anglophone, tout en augmentant son offre pour la communauté queer. Je sens qu'il y a un engouement pour se rencontrer en vrai, confie-t-elle. Je ne suis pas toute seule à penser qu'en 2025, on devrait avoir plus que les applications de rencontres, puis les conversations qui ne mènent nulle part. Je me dis que c'est sûr qu'on peut faire mieux que ça. Et elle veut le prouver avec Match-moi. D'autres événements pour célibataires. Du bingo pour célibataires est organisé les mercredis soirs au bar Spaghetti Western. C'est le moment de sortir son chapeau de cow-boy. Un souper dans un bon restaurant pour rencontrer d'autres célibataires vous tente? C'est ce qu'offre Food Friends Love, qui espère permettre aux gens d'établir des contacts authentiques. La mission de Together Club, qui organise plusieurs événements à Montréal, est de favoriser les rencontres dans une atmosphère bienveillante et ludique. C'était une révolution loin des applications de rencontres. Un texte de Florence Dancause, paru le 30 mars 2025 dans la presse.
On a des Américains qui s'excusent. Je n'avais jamais vécu ça. Un texte de Jean-Louis Bordelot, paru le 3 mars 2025 dans Le Devoir. Le Canadien stéréotypé demande pardon pour un rien, tandis que l'Américain moyen est, lui, peu reconnu pour son sens de la contrition. Les choses ont changé depuis la dernière élection américaine. On a des Américains qui s'excusent. Je n'avais jamais vécu ça. Daniel Beauregard-Long en connaît plusieurs de ces Américains embarrassés par leur président. Sa compagnie, JMN Entreprises, fabrique au Nouveau-Brunswick des outils de cuisine, mais possède un entrepôt aux États-Unis. Ce bâtiment est situé juste de l'autre côté du pont de 300 mètres qui sépare sa province de l'État du Maine. En apparence, rien n'a changé à la douane. Je traverse 3 ou 4 fois par semaine. Je ne sens pas de climat différent. On n'est pas moins bien reçu qu'avant, dit-il. Pourtant, la rhétorique clivante de Donald Trump a déjà commencé à faire son œuvre. Ses menaces répétées de tarifs, voire d'annexion, poussent les gens dans un camp ou un autre. Ça divise les familles, les amis, les clients, les fournisseurs, de dire M. Beauregard-Long. Il me semble que ça serait mieux que l'on s'entraide plutôt que l'on essaie de se nuire. Les paroles agressives du président américain ont bel et bien soufflé un vent glacial sur les relations autrefois plus qu'amicales entre Maînois et Acadiens du Nouveau-Brunswick, affirme Hélène Onger, présidente de la Chambre de commerce de la région d'Edmundston. Je connais des personnes qui, depuis toutes ces menaces-là, depuis cette instabilité, ont arrêté d'aller faire le plein d'essence aux États-Unis. Je ne veux pas dire qu'elles ne sont plus bien accueillies. Ce sont encore les mêmes douaniers qu'on connaît bien. Mais elles ne sont pas à l'aise de traverser. On parle de gens qui y allaient chaque semaine. Elle aussi a commencé à limiter au maximum ses voyages aux États-Unis à cause du discours menaçant qui se diffuse au sein de la population américaine. Oui, il y a le côté économique, des tarifs, qui est vraiment majeur. Mais il y a aussi le côté humain. Ça affecte toutes les sphères de la vie d'un individu, tant ses achats ou son commerce que ses amitiés. C'est inquiétant, c'est tellement inquiétant. À ses côtés, Cathy Pelletier, la directrice générale de la Chambre de commerce, se désole tout autant du fossé qui s'est creusé entre les deux faces d'une même communauté. Moi, la majorité de ma famille est aux États-Unis, confie-t-elle. Ils sont tous pro-Trump. Quand je vois qu'ils écrivent des commentaires, on essaie de leur faire réaliser, mais ils sont tellement collés là-dessus qu'à un moment donné, tu te dis qu'il vaut mieux ne pas se chicaner non plus. Mais on dirait qu'ils ne comprennent pas qu'eux autres aussi vont avoir des impacts. Ce ne sera pas juste nous autres. Eux autres aussi vont sentir des impacts. Ne plus pouvoir compter sur ce marché naturel que sont les États-Unis frustre les entreprises, dit Hélène Anger, autant que les débats politiques qui s'érigent comme des barrières invisibles dans la tête des gens. Ça devient des conflits interpersonnels. Par exemple, tu as des amis qui font de la motoneige ensemble et ils sont frustrés parce que leurs amis américains vont décider de ne plus venir. Ou alors, les Américains vont être frustrés parce que nous autres, on ne va plus chez eux. Mais en même temps, on circule tous sur le même circuit établi. Un fossé à combler. Ce fossé commence à inquiéter sérieusement le maire d'Edmundston, Éric Marquis. Les frontières fermées durant la pandémie avaient déjà forcé familles et amis résidents des deux côtés du fleuve Saint-Jean à ne plus se voir pendant 2 ans. En ce début de nouvelle crise, la division semble plus encore profonde. J'en ai encore entendu parler en fin de semaine.
il y a des gens d'un bord comme de l'autre de la frontière, et là, il y en a dans la famille qui ne se parlent plus, des gens qui ne se parlent plus. Ces divisions familiales héritent d'autant qu'Ken Munston et Madawaska partagent une histoire commune. Le drapeau de la ville côté États-Unis est identique à celui de l'Acadie. Des signaux bilingues sont affichés des deux bords du fleuve Saint-Jean. Pour nous autres, les États-Unis, c'est un peu comme un grand frère ou une grande sœur, explique le maire. Si on remonte dans l'histoire, la rivière n'était même pas la frontière. Les conflits commerciaux appartiennent à la politique et ils ne devraient pas séparer les amitiés, souligne-t-il. On prend un problème politique et on l'invite dans la cuisine. Souvent, ça finit vraiment par des discussions qui ne sont pas tellement intéressantes. Ça finit par des conflits. Par exemple, on a ici un club de hockey qui s'appelle le Blizzard et qui évolue dans la Ligue junior. On a des personnes qui viennent des États-Unis à tous les matchs. L'un des plus grands supporters, un monsieur de Madawaska, vient toujours avec son enseigne illuminée. Ça fait depuis le premier jour du Blizzard. C'est important qu'on puisse garder ces liens-là entre nos communautés, parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on puisse continuer à grandir. Les conflits commerciaux politisés, ça appartient à la classe politique. Il faudrait faire attention de ne pas les amener dans nos discussions de tous les jours, ce qui ferait en sorte qu'on diviserait des communautés. À un jet de pierre. Un gros tuyau traverse le fleuve Saint-Jean et relie les villes d'Edmundston et de Madawaska. Du côté canadien, une usine déchiquette du bois brut pour faire une sorte de pâte. On l'achemine ensuite par pipeline de l'autre côté de la frontière internationale. Une seconde usine transforme cette pâte en papier. Le produit fini, des feuilles de papier, finit par être vendu en Acadie après avoir traversé une deuxième fois la frontière. Ce petit tour de passe-passe donne du travail à plus de 800 personnes des deux côtés du pont Edmundston-Madawaska, dont plus de 500 aux États-Unis. Il démontre aussi combien des tarifs américains et une réplique canadienne seraient inapplicables ou sinon très dommageables. En tout, 21 700 personnes au Nouveau-Brunswick pourraient directement perdre leur emploi à cause des tarifs, selon une enquête réalisée par Pierre-Marcel Desjardins, professeur à l'Université de Moncton et pour le compte du Conseil économique du Nouveau-Brunswick. La fabrication d'aliments, l'élevage, l'aquaculture et les produits en bois constituent les secteurs les plus vulnérables. C'était « On a des Américains qui s'excusent. Je n'avais jamais vécu ça », un texte de Jean-Louis Bordeloup paru le 3 mars 2025 dans Le Devoir.